Voilà, bonjour. Je crois qu'on va essayer de commencer pas trop tard. Je vous remercie tout d'abord d'être venu et aussi le groupe d'éminents spécialistes de différents aspects de ce dont on va parler. Professeur Arnold Munich qui vient de nous rejoindre. Donc cette table ronde, c'est l'impact des méthodologies de génomique à haut débit sur le diagnostic prénatal et le diagnostic préconceptionnel de maladies génétiques. Et effectivement, si j'ai souhaité, dans le cadre de mes cours au collège, de faire cette table ronde, qui suit un cours sur les aspects techniques que j'avais fait la semaine dernière, mais c'était vraiment sur les aspects technique, qu'est-ce qui est proposé, est-ce que la sensibilité, la spécificité, les conditions, etc., mais de se poser les questions éventuellement sur les aspects éthiques, les problèmes que ça peut soulever, sur la mise en place, avec quelles limites, et d'avoir pour ça une discussion avec des personnes qui viennent d'horizons différents, y compris des représentants d'associations de malades. Alors donc, si vous voulez, juste deux ou trois dias pour dire pourquoi est-ce que j'ai pensé que le moment était venu. Il y a eu l'an dernier, encore cette année, en mars, en mars 2012, cet article qui fait la validation sur 2000 grossesses d'un test non-invasif. Donc non invasif, c'est-à-dire sans prélèvement direct sur le fœtus, pour le dépistage et le diagnostic des trois trisomies principales, la trisomie 21, mais aussi la trisomie 18 et la trisomie 13, et montrant effectivement une excellente spécificité et une excellente sensibilité. Avec une compagnie qui s'appelle Segenom, qui a commencé à proposer ça aux États-Unis. Donc ça, c'est un des premiers aspects. C'est est-ce que cette technologie, qu'est-ce qu'elle change aux perspectives sur ce qui se fait déjà en France. Et l'autre article qui m'a fait me poser effectivement ces questions, c'est un article qui montre que les conditions technologiques pour faire le diagnostic systématique de 450 maladies pédiatriques sévères, ou plutôt le dépistage systématique des couples à risque d'avoir des enfants atteints de maladies génétiques pédiatriques sévères en utilisant les techniques du séquençage à haut débit, que effectivement ces perspectives existent au plan technique, ça pose effectivement le problème. Est-ce que un tel dépistage, qui en principe peut concerner l'ensemble des couples qui ont un projet parental dans, je dirais, les quelques années à venir, est-ce que un tel dépistage est quelque chose qu'on peut souhaiter, au contraire, qu'on voudrait interdire, ou quelles sont les limites, quels sont les aspects économiques, etc. Et d'autre part, d'ailleurs, là aussi, aux États-Unis, par exemple, il y a déjà des compagnies qui, technologiquement, sont d'excellentes compagnies, comme Ambry, qui proposent de détecter les mutations disons, les plus fréquentes pour 75 maladies génétiques de l'enfant. Donc, c'est ce qu'on va développer en trois parties, je dirais. La première, c'est de dire l'existant en termes de dépistage et diagnostic de la trisomie 21, mais aussi des maladies génétiques plus rares. Disons, qu'est-ce que à l'heure actuelle, on fait en France et on est autorisé de faire en France. La deuxième partie, ça sera ensuite de discuter sur le diagnostic non invasif de la trisomie 21, qu'est-ce que ça pose comme problème, ou est-ce que ce n'est qu'une évolution technologique et pas une révolution, ou est-ce que ça pose des nouveaux problèmes, par le fait par exemple que ça peut être plus précoce. Et la troisième partie, qui sera la discussion sur ce dépistage préconceptionnel, donc des couples à risque dans la population générale d'avoir des maladies génétiques, quelque chose qui ne se fait absolument pas en France ou quasiment pas en France pour aucune maladie d'une manière, disons, systématique au niveau de la population générale. Est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable ou pas? Quels sont les problèmes que ça pourrait poser? Et nous aurons l'intervention du docteur Anikras Rothschild d'Israël, puisque en Israël, il y a beaucoup plus de tels dépistages. Je salue monsieur le député Jean-Yves Le Déo qui vient de nous rejoindre. Donc, ces aspects de dépistage, est-ce que là aussi, quels sont les problèmes que ça pose? On pense que ça peut avoir un intérêt de l'introduire en France, dans quelles conditions, y compris conditions économiques. Donc, voilà les choses. Alors, il se trouve que comme le diagnostic prénatal est un des aspects majeurs de cette table ronde, je voulais prendre l'occasion ici pour rendre hommage au professeur André Boué, qui est disparu il y a quelques semaines, puisque c'est, qu'on l'on voit ici, avec son épouse qui l'a accompagné dans toute son aventure scientifique autour des anomalies chromosomiques et du diagnostic prénatal, et de Philippe Lazard, avec qui ils avaient collaboré quand il était épidémiologiste, avant qu'il soit directeur de l'INSERM. Et André Boué nous a quittés il y a quelques semaines, et je voulais donc rendre cet hommage parce qu'il a effectivement eu un rôle tout à fait important et majeur. En fait, c'était quelqu'un qui a commencé en tant que virologiste, et comme Joël Boué est arrivé, bonjour, voilà, et donc je suis très très heureux et très très ému que Madame Joël Boué nous ait fait l'amitié de venir. Comme je le disais, donc André Boué, qui était au départ virologiste, en tant que virologiste, s'est intéressé à des virus qui étaient qui pouvaient causer des malformations congénitales, et aussi était donc à ce titre aussi un spécialiste des cultures cellulaires. C'est donc très tôt, à partir des années 65, avec Joël Boué, vous voyez ce premier article, ou un des premiers par Joël et André Boué, en 1966. Et au départ, ça a été ce travail très important, montrant que, en fait, dans les avortements spontanés, il y avait une fréquence extrêmement importante d'anomalies chromosomiques, y compris d'ailleurs des anomalies chromosomiques qui étaient compatibles avec la vie, mais qui entraînaient quand même des pertes fœtales importantes. Donc ça, c'était ce premier travail extrêmement important, dont voilà donc André Boué, Joël Boué, et ces travaux épidémiologiques avec Philippe Lazard, qui ont montré effectivement l'importance de ces anomalies chromosomiques dans les interruptions très précoces dans les avortements spontanés. À l'époque, encore, on ne savait pas identifier les chromosomes tout à fait spécifiquement, donc on appelait les chromosomes des groupes D et des groupes G. C'était vraiment les tout débuts de la cytogénétique. Et puis, ils ont continué à faire un travail très important, à la fois un travail de pionnier sur les applications en diagnostic prénatal de la cytogénétique, donc vous voyez ici en 78 par exemple, diagnostic prénatal de réarrangement structurel de chromosomes, etc., mais aussi en faisant des applications sur d'autres pathologies, comme l'hyperplasie des surrénales, comme la mucoviscidose. Et j'ai eu l'occasion de... Ça a été parmi les premières collaborations que j'ai eues quand j'ai commencé à faire de la génétique humaine en 1984, où nous avons eu 8 années de collaboration très, très fructueuse et très amicale, notamment sur, sur l'X fragile. Donc c'est quelque chose... Je suis très, très reconnaissant à Joël et André Boué. Puisque nous allons aussi parler de problèmes éthiques, puisque évidemment ces aspects de diagnostic prénatal posent des interrogations sur leur mise en œuvre, et, sur est-ce qu'il s'agit d'eugénisme dévoyé ou dans quelles limites et dans quelles conditions cela peut être utilisé. André Boué a, pendant 10 ans, œuvré au sein du comité consultatif national d'éthique. Je remercie d'ailleurs Brigitte Simon-Bouy, qui fut aussi une de ses collaboratrices pendant de longues années, pour avoir passé ces diapositives. Donc je tenais absolument à ce que, dans cette assemblée, où il y a, j'ai reconnu de nombreux amis généticiens, on puisse rendre cet hommage à André Boué qui a, et également Joël, qui ont vraiment fait énormément pour le développement de ces aspects de diagnostic prénatal. Donc, on va passer maintenant à l'aspect des conditions du dépistage et du diagnostic prénatal de la trisomie, mais aussi éventuellement d'autres maladies génétiques en France en 2012, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est donc se fait parce que c'est autorisé par la loi, parce que c'est pris en charge par la Sécurité sociale, et quels sont éventuellement les problèmes que ça pose. Et donc là, je vais laisser la parole à Catherine Bourguin, qui a aidé à co-organiser avec moi cette séance.
Alors bonjour tout le monde, moi je vais être très brève parce que on a aujourd'hui 3 heures avec une table ronde de participants particulièrement impressionnante pour essayer de soulever les différents enjeux autour des technologies dont Jean-Louis vient de parler. Alors c'est une table ronde prolifique. J'ai vérifié, c'est quand même moins que le nombre de chevaliers de la table ronde, donc espérons que nous allons réussir à faire suffisamment circuler la parole pour que toutes les personnes qui ont eu la gentillesse d'accepter de venir participer puissent avoir un temps pour faire valoir les différents éléments qu'ils souhaitent apporter au débat. Alors, notre ambition est à la fois vaste, puisque nous avons invité, nous l'espérons, des participants de différents horizons, et en même temps modeste, puisque l'idée principale reste tout de même de soulever les différents enjeux qui entourent ces questions, qui mêlent à la fois science, médecine, technologie, santé, mais aussi droit à la différence, respect des choix et des libertés de chacun, solidarité nationale et évidemment enjeux économiques. Et donc nous espérons que cette table ronde n'est qu'un début pour poursuivre les réflexions sur ces enjeux extrêmement importants. Alors, donc nous avons pour la première partie demandé à plusieurs participants à cette table ronde, donc, dont je vais faire la liste parce que tout le monde n'est pas encore autour de cette estrade vu qu'on a invité beaucoup de monde. Nous allons commencer par écouter Madame Ségolène Aimé, qui est donc médecin généticienne épidémiologiste à l'INSERM, enfin directrice de recherche émérite ou honoraire. Nous écouterons ensuite Madame Alexandra Benaki, qui est gynécologue obstétricienne à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Nous enchaînerons avec Madame Françoise Cabaya, qui est la secrétaire générale de l'Union nationale des associations de parents et de personnes handicapées mentales et de leurs amis. Ensuite, M. Patrick Gaudret, qui est directeur de recherche au CNRS et qui était membre du comité consultatif national d'éthique. Et M. Jean-Paul Godillère, qui est historien de la médecine à l'INSERM et qui a travaillé particulièrement sur la question des tests génétiques dans une première partie, avec également l'intervention de Dominique Bonneau, qui est généticien à Angers et ancien président de la Fédération française de génétique humaine et médicale. Voilà, donc je donne la parole. Donc on a demandé à chaque intervenant et ils ont accepté de faire des interventions brèves. Donc nous nous excusons de ne pas pouvoir leur donner plus la parole, mais nous espérons que ça suffira pour soulever tous les enjeux
importants.
Pourquoi
j'arrive pas à mettre la première ?
Donc voilà, je donne la parole à Ségolène.
C'est pas la première.
C'est pas la première.
Je sais pas pourquoi elle veut pas se mettre. Oui. Donc moi je suis la vieille du panel. Puisque j'ai commencé à faire du diagnostic prénatal chromosomique en 1974, enseigné par Joël. Et j'ai après, en tant que chercheur à l'INSERM, regardé comment les technologies liées au diagnostic prénatal se sont diffusées et ont été adoptées par les différents intervenants, que sont d'une part les professionnels de santé, d'autre part les intéressés, c'est-à-dire les femmes et les couples. Et ça a été très fructueux en termes de compréhension des mécanismes qui sous-tendent les comportements. Et je pense que je vais donner tout de suite ma conclusion, parce que je ne suis pas sûre que je pourrais réintervenir dans le panel. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que tout ce qu'on a appris au cours de ces 40 dernières années est toujours valable et va éclairer donc ce qui va se passer maintenant que les technologies évoluent. Ce n'est qu'une évolution et rien d'autre. Donc, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé avec le dépistage dans le passé, parce que c'est ce qui va arriver dans le futur. Donc ensuite, je voudrais repréciser, parce que pour tout le monde, ce n'est pas très clair, la distinction entre dépistage et diagnostic. Le dépistage, c'est ce qu'on propose à des gens qui n'ont pas de problème a priori, donc qui ne sont pas des couples à risque a priori, donc généralement en population générale, et on leur propose un test qui est simple, fiable et peu coûteux, et qui permet là ensuite de dépister un groupe à très haut risque, chez qui on confirme le diagnostic quand ce n'est pas sûr au moment du dépistage. Et par exemple, l'échographie systématique en France, en milieu obstétrical, est un examen de dépistage, puisqu'il est proposé à toutes les femmes enceintes, de même que la mesure qui a été décidée de longue date en France pour le dépistage de la trisomie 21 a été le dosage sanguin des marqueurs sériques, qui est proposé systématiquement à toutes les femmes enceintes, mais pas accepté par toutes, comme on va le voir. Donc, le dépistage prénatal en France est semi-organisé, au sens où il est très, très bien encadré, et je pense que la France peut être fière de ce qu'elle a fait à travers ses lois de bioéthique de 1994, 2004 et 2011, qui a mis en place tout un dispositif qui assure la qualité des services, mais il n'y a pas réellement un encadrement du dépistage prénatal, aussi, disons, pensé que le diagnostic, encore que c'est en train de s'améliorer avec maintenant une organisation réelle du dépistage au premier trimestre de la grossesse, mais c'est très très récent. Et donc, pendant toutes ces dernières années, ça s'est fait plus par la régulation professionnelle, c'est-à-dire une entente entre les professionnels sur ce qu'étaient les bonnes pratiques, et en fait une espèce de transaction insatisfaisante entre le ministère, l'Agence de la biomédecine, les sociétés savantes, les groupes d'experts, etc. Donc on n'a pas un encadrement vraiment du dépistage, mais on a un vrai encadrement du diagnostic. Alors quels sont les faits, parce que c'est intéressant de voir où on en est. Je vous rappelle qu'on a à peu près 700 000 naissances chaque année en France. Il y a, en 2009, ce qui est le dernier bilan publié par l'Agence de la biomédecine, il y a eu 35 783 dossiers qui sont arrivés dans les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, qui ont à connaître tous les diagnostics positifs qui sont faits et qui pourraient éventuellement conduire à une interruption médicale de grossesse. Donc il y a eu 35 783 dossiers en 2009, et vous voyez que c'est en augmentation par rapport à 2005. Le progrès des matériels d'échographie, et puis aussi l'extension du dépistage des marqueurs sériques au premier trimestre, la diffusion de la mesure de la clarté nucale, etc. Parmi ces 35 000 dossiers, il y en a 6 993, qui ont abouti à une décision pluridisciplinaire que l'interruption médicale de grossesse était possible. Mais ça ne veut pas du tout dire, parce qu'elle était autorisée par le centre multidisciplinaire, qu'elle était réalisée, puisque vous voyez que parmi ces dossiers, il y a eu 578 poursuites de la grossesse, qui montrent bien que ce n'est pas parce que c'est techniquement faisable, ce n'est pas parce que c'est moralement jugé, disons, conforme à la loi, c'est-à-dire que l'affection est grave et non curable au moment du diagnostic, que pour autant, les couples considèrent tous qu'il faut interrompre la grossesse. Et puis il y a eu 109, disons, refus d'attestation, c'est-à-dire des demandes du couple qui aurait souhaité, et l'obstétricien aurait souhaité aller vers une interruption médicale de grossesse, et finalement, le centre multidisciplinaire en a décidé autrement. Et donc, vous voyez qu'il y a une vraie examen de ces dossiers, une vraie prise de décision, et qu'il y a une attitude indépendante des acteurs, et en particulier des couples qui peuvent très bien souhaiter, après information, poursuivre la grossesse. Et je voudrais que vous gardiez vraiment ça en tête. Quand on regarde les indications qui président aux interruptions médicales de grossesse effectives, par exemple en 2009, on voit que les malformations détectées à l'échographie sont majoritaires, puis ensuite les anomalies chromosomiques, les maladies génétiques ne représentant qu'un très faible part de l'ensemble des interruptions médicales de grossesse, avec leurs 5,4%. Et donc, le gros des interruptions, c'est pour des malformations très sévères, majeures, des anomalies du développement et des anomalies chromosomiques. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé en termes d'impact sur la trisomie 21 de cette politique de dépistage par les marqueurs sériques et l'échographie, et on a actuellement une proportion assez stable, enfin, un nombre assez stable de trisomie 21 qui sont dépistés chaque année, si on regarde les quatre dernières années, 1934 en 2010. Alors, qu'est-ce que ça représente sur l'ensemble des trisomies nées? Bon, les chiffres ne sont pas connus précisément pour toutes ces années dans le rapport de l'Agence de la biomédecine, mais on a les chiffres qui sont issus des registres de malformations congénitales du réseau Eurocat, et le taux à Paris pour la même année était de 85%, donc ces 1934 correspondaient à 85% des trisomies, et sachant que la moyenne européenne est de 65%, donc la France a un taux de détection qui est bien supérieur à celui des autres pays, en particulier à cause de notre diffusion très large de l'échographie obstétricale, qui n'est pas du tout le cas dans beaucoup de pays. Et on est aussi le seul pays qui a une organisation nationale bien faite de la proposition de dosage des marqueurs sériques. Je voudrais rappeler quelques chiffres qui sont extrêmement stables sur le temps, qui sont vrais depuis le début du dépistage par les marqueurs sériques. C'est qu'en gros, les chiffres qu'il faut retenir, c'est que quand on propose à toutes les femmes enceintes un dosage de leur marqueur sérique en leur expliquant que c'est pour dépister la trisomie 21, il n'y en a que 80% qui acceptent ce dosage. Donc déjà, d'emblée, 20% des couples ne sont pas intéressés par une évaluation de leur risque. Et je pense que ça continuera, quelles que soient les techniques qu'on leur proposera. Ensuite, quand ils ont ce dosage et qu'ils sont dans le groupe à risque, c'est-à-dire qu'ils ont un risque supérieur à 1 sur 250, ils ne sont encore que 80% à accepter d'aller plus loin pour vérifier qu'il y a une trisomie ou qu'il n'y en a pas. Et donc, on voit que c'est 80% de 80%. Et ensuite, quand le diagnostic de trisomie 21 est fait, sûr, qu'on leur annonce, il y a encore 5% des gens qui vont poursuivre la grossesse. Et donc, tous les discours qui sont faits sur ce sont des mesures eugéniques, que les gens ne veulent plus avoir d'enfants handicapés, etc., etc., sont complètement erronés. Il suffit de regarder les faits pour voir que ce n'est pas du tout comme ça que se comportent les gens. Il y a une vraie réflexion, il y a des choix individuels, et en aucun cas, la France n'a de politique systématique de diagnostic et d'interruption de grossesse pour la trisomie 21. Elle a une proposition systématique de mesures d'évaluation du risque, qui est tout à son honneur, parce que c'est la seule façon de lutter contre les inégalités sociales, car sans ça, comme dans les années 70 et 80, quand j'ai commencé, il n'y avait que les femmes de médecins, les sœurs de médecins, les filles de médecins qui avaient recours au diagnostic prénatal, les autres n'étaient pas au courant. Donc, si on veut corriger ces inégalités sociales, il faut avoir une proposition systématique de ces techniques et laisser les gens faire leur libre choix. Merci.
Ouais. On va donner maintenant la parole à Alexandra Benaki, qui est elle-même gynécologue obstétricienne, donc pour avoir un point de vue différent du point de vue de la généticienne épidémiologiste.
Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, effectivement, de mon point de vue de gynécologue, je vais vous expliquer comment ça se passe en pratique et comment se passe le dépistage et le diagnostic de la trisomie 21 aujourd'hui. Alors, juste deux secondes. Comment je fais pour... parce qu'elle est là. Voilà,
attends, elle est là.
Elle est là, pardon. Voilà. Donc, le dépistage de la trisomie 21 est autorisé en France depuis 1997, mais depuis le décret de juin 2009, le dépistage de la trisomie 21 est assez bien organisé en France. Donc, quand une patiente est enceinte, comme vous le disiez, Madame Aimée, tout à l'heure, on lui propose un dépistage de la trisomie 21, donc, qui consiste en la mesure de la clarté nucale du fœtus. Vous voyez ici, là, vous avez le profil du fœtus, et donc on mesure la clarté nucale. Cette clarté nucale doit être mesurée d'une certaine façon qui répond à des critères extrêmement précis. Et il y a actuellement des contrôles de qualité de ces mesures de nuque. Et donc, tout le monde doit théoriquement mesurer la nuque de la même façon. C'est cette mesure de la nuque est peut-être utilisée seule avec l'âge de la patiente et on fait un calcul de risque, mais le plus souvent on utilise aussi les marqueurs sériques, donc maintenant du premier trimestre, qui sont une prise de sang, qui sont réalisées entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée, on dose deux hormones et on fait un calcul global du risque du fœtus d'être porteur d'une trisomie 21 qui tient compte de la mesure de la nuque, de l'usage des marqueurs et de l'âge de la patiente. On appelle ça le dépistage combiné et donc on propose ça à toutes les patientes. Le contrôle de la clarté nucale est effectué par une obligation des échographistes qui réalisent ce genre de mesures d'appartenir à un réseau et d'avoir une évaluation des pratiques professionnelles. Donc ça a été très compliqué à mettre en place, le temps que tout le monde comprenne comment ça fonctionnait. Et les laboratoires qui font les prises de sang sont également, qui font les dosages, sont très contrôlés. Donc il y a quand même actuellement en France, et Madame Aimée disait qu'on était un des pays à avoir la meilleure organisation, c'est tout à fait vrai, une très bonne organisation du dépistage de la trisomie 21. Quand la patiente reçoit son résultat, elle le reçoit sous forme de risque d'avoir un enfant porteur de trisomie 21 ou pas. Et donc, quand la patiente a un seuil, le seuil a été fixé, pardon, 1 sur 250, et quand la patiente a un risque supérieur à 1 sur 250, on lui propose un prélèvement invasif, on va le revoir après, amyosynthèse ou biopsie trophoblaste, pour avoir le diagnostic. On détecte aujourd'hui avec ces tests à peu près 86% des enfants porteurs de trisomie 21 pour un taux de faux positif de 5%. Ça veut dire que 5% des patientes auront un test positif et donc auront une amyosynthèse ou une biopsie trophoblaste si elles le souhaitent, alors que le fœtus n'aura pas d'anomalie chromosomique. L'avantage par rapport aux tests qui existaient avant, qui était, on pouvait faire les marqueurs sériques au deuxième trimestre de la grossesse avant 2009, c'est qu'il y a une meilleure sensibilité, donc moins de faux positifs et donc moins de fausses couches. L'avantage de ce test aussi, c'est qu'il est réalisé au premier trimestre et que donc on peut faire des interruptions de grossesse si c'est le choix de la patiente plus tôt, ce qui est beaucoup moins traumatisant pour la patiente. Donc en 2009, pour reprendre les chiffres de l'Agence de la biomédecine, il y a eu 74 629 caryotypes fœtaux réalisés, toute indication, hein, pas que la trisomie 21, pour 3800 anomalies chromosomiques détectées, et donc ce qui veut dire que on a à peu près 746 fausses couches théoriques pour 3849 diagnostics d'anomalies chromosomiques, puisque les tests que sont la biopsie trophoblaste et la myosynthèse comportent un risque d'environ 1% de fausses couches. Alors si vous interrogez tous les gynécologues, vous allez avoir des chiffres très variés, mais il y a des études en population sur des très grands nombres de patientes qui retrouvent quasiment toujours un chiffre de 1% de fausses couches. Donc ce dépistage n'est pas obligatoire, Madame Aimée vous l'a bien dit, ce n'est pas une politique eugéniste, c'est un choix qu'a la patiente d'accepter ou non ce dépistage, mais il doit être proposé à toutes les patientes. Il y a un vrai devoir d'information du médecin qui doit informer correctement la patiente. Et c'est le problème de ce test, c'est qu'en fait, il y a certaines études qui ont montré que les médecins et les patientes ne comprennent pas toujours tout, alors que théoriquement, il y a un consentement éclairé et donc écrit, et que la patiente doit signer l'autorisation. Une autorisation pour réaliser ce dépistage. Romain Favre, qui travaille à Strasbourg, a fait une thèse de science sur le sujet. Il a montré que 32% des médecins informent correctement les patientes, 46% orientaient le choix des patientes vers le dépistage et que 15% avaient compris que ce dépistage était obligatoire. Et quant aux patientes, 40% dans des études récentes n'ont pas compris qu'elles pouvaient avoir à prendre la décision d'IMG une fois qu'on leur avait proposé ce test. 50% n'avaient pas compris que le dépistage pouvait aboutir à une amyosynthèse et 70% n'avaient pas compris l'intérêt de la première échographie. Juste pour vous dire que ce n'est pas si simple et que même si j'ai essayé d'être claire, je pense que certains d'entre vous se disent « mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est pas clair, c'est l'histoire d'écho, de prise de sang, d'âge maternel. » Et donc simplement pour vous dire que quand vous êtes une patiente lambda, que vous arrivez Et quand on vous explique tout ça, c'est un vrai devoir d'information des médecins d'être le plus clair possible, mais que pour la patiente, le dépistage de la trisomie 21 n'est pas toujours très simple à comprendre. Quand on discute avec les patientes en consultation et qu'on leur propose le dépistage, il y a à peu près 10 à 15% des patientes qui disent « Mais bon, très bien, on va faire le test juste pour voir, mais je ne pense pas que j'interromprai la grossesse si mon enfant est porteur de trisomie 21. » Mais en fait, une fois qu'on a fait le test et que c'est positif, la plupart quand même demandent une amyosynthèse ou une biopsie trophoblaste. Et c'est ce que disait Madame Mimé tout à l'heure, 96% des enfants porteurs de trisomie 21 détectés en France sont interrompus. Donc la justification de ce test de trisomie 21, c'est justification médicale, et on parle d'autonomie reproductive dans les papiers anglo-saxons. C'est évident que la patiente doit avoir le choix de savoir si elle veut faire ou pas ce dépistage, et que le dépistage doit être bien expliqué. Et il y a bien évidemment aussi une justification financière. Donc les prélèvements, je vous l'ai dit tout à l'heure, biopsie trophoblaste ou amyosynthèse. La biopsie trophoblaste peut être réalisée juste après le dépistage de la trisomie 21, donc avant 14 semaines d'aménorrhée. Le résultat est obtenu en quelques jours et ça permet de faire l'interruption par une aspiration et pas comme un accouchement. Alors que l'amyosynthèse peut être réalisée n'importe quand dans la grossesse à partir de 15 semaines d'aménorrhée et il faut 15 jours pour avoir le résultat. Quel que soit ce test, je vous ai dit, le risque de fausse couche est de 1%. Et puis est apparue la possibilité de faire un diagnostic prénatal non invasif à partir de l'ADN ou des cellules fœtales. En pratique, aujourd'hui, on utilise l'ADN et il y a deux indications utilisées en routine par les gynécologues. C'est l'indication pour la détermination du sexe fœtal et du rhésus. On va en reparler, je pense, dans la journée. Le sexe fœtal est uniquement utilisé dans des indications médicales et bien sûr pas pour convenance. Son utilisation est très réglementée. Et c'est Jean-Marc Costa qui a mis en place ce test en France, et il n'est utilisé que pour des patientes qui sont à risque de transmettre des maladies génétiques liées à l'X et dans d'autres indications plus rares. Et on peut aussi déterminer le rhésus du fœtus, ce qui est très utile pour les patientes qui sont à risque d'alloimmunisation quand elles sont rhésus négatifs. Et l'avantage de ce test, c'est qu'il peut être fait à partir d'une simple prise de sang chez la mère et qu'il n'y a pas de risque de fausse couche. Et donc, vous en avez déjà parlé, on va en reparler toute la journée. Il y a maintenant la possibilité de faire le diagnostic de la trisomie 21 sur son maternel à partir d'un séquençage à haut débit. Donc, l'apparition de ce diagnostic prénatal non-invasif, de mon point de vue, va changer le paysage du dépistage et du diagnostic prénatal. Ces tests permettraient de remplacer les tests probabilistes, donc le dépistage, et des tests comportant des risques de fausse couche, qui sont actuellement les tests diagnostiques, par un test facile, fiable, précoce, rapide et sans aucun risque. Il n'y aura plus le frein que représente le risque de fausse couche. La compréhension des informations par les médecins et par les patientes est extrêmement simple. On fait une prise de sang, on a le diagnostic, votre enfant est porteur ou non d'une trisomie 21. La notion du consentement éclairé va être extrêmement difficile à mettre en place parce que les patientes vont avoir accès à ces tests très facilement et je pense que c'est extrêmement important que tout le monde comprenne l'enjeu de la possibilité d'avoir ce test en accès direct parce que l'avantage du dépistage, c'était que les patientes pouvaient réfléchir, prendre le temps de la réflexion, se demander si elles allaient interrompre la grossesse ou pas, alors que là, théoriquement, dès 8-9 semaines d'aménorrhée, on va faire une prise de sang et dire « Voilà, madame, votre enfant est porteur d'une trisomie 21 avant même que la patiente ait eu une échographie ». Il va être très important pour tous les acteurs de l'avenir proche que le diagnostic prénatal ne soit pas considéré comme une évidence par ceux qui utilisent ces tests et ceux qui les prescrivent. Je vous remercie.
Je suis donc Françoise Cabaya, secrétaire générale de l'UNAPI. Je suis maman d'une jeune femme de 38 ans qui a un retard mental profond sans diagnostic. Donc l'UNAPI, je reprécise rapidement, c'est 60 000 familles adhérentes et c'est 180 000 personnes handicapées mentales accompagnées par 75 000 professionnels. Nous avons été très longtemps catalogués d'associations de parents d'enfants trisomiques, alors que nous sommes une association tout à fait généraliste, même si la partie trisomie est assez importante. Bon, mon intervention, elle sera évidemment pas du tout technique, mais uniquement quelques réflexions, quelques questions qui nous remontent. hein, qui nous remontent du terrain, de famille, hein, qui nous envoient un petit peu leur vécu de ce dépistage, ou alors d'associations qui ont été intégrées dans des réseaux d'accompagnement de la maternité. Je pense en particulier au réseau Ombrelle, que vous connaissez sans doute, hein, qui est un réseau de praticiens et d'associations, dont les Papillons Blancs de Lille, qui s'occupe de tout ce qui est maternité et périnatalité dans l'agglomération lilloise. Donc si les chiffres que nous avons sont des chiffres exacts, hein, je pense qu'ils le sont, la naissance d'enfants trisomiques est en très nette diminution, et cela interroge sur un certain nombre de problématiques. Or, les questions que je vais poser ne sont pas des questions exhaustives, elles ne sont pas non plus dans un ordre hiérarchique. Or, ces questions sont les suivantes. Pourquoi la trisomie 21 de façon si systématique? Première question. Deuxième question, quelles sont les motivations du test? Des arguments liés à la famille et à l'enfant lui-même. Difficulté à élever un enfant trisomique. Une espèce de, ce que j'appellerais une espèce de bonne conscience. Il va souffrir, il ne sera jamais autonome. À partir de là, on voit une espèce de hiérarchie dans la qualité de vie, je dirais. Ensuite, des arguments liés à la société, le poids économique de la prise en charge d'un enfant trisomique pendant des décennies, puisque aujourd'hui, une grande majorité d'enfants trisomiques vivent bien plus longtemps qu'ils ne vivaient autrefois, ce qui nous pose d'ailleurs à nous, associations, la question de la prise en charge de ces enfants devenus adultes et puis devenus vieillissants, presque comme tout un chacun. Donc un poids économique important, et puis je dirais peut-être aussi les grandes peurs ancestrales liées à l'anormalité, parfois associées à la monstruosité. Troisième question, la fiabilité du test. On l'a vu tout à l'heure, 1 sur 250, risque élevé. Si une personne a un risque de 1 sur 30, cela signifie que le bébé a un risque sur 30, soit 3% d'être porteur de la trisomie 21. Ça veut dire que dans 97% des cas, il ne le sera pas. Donc ce test inquiète environ 5% des personnes enceintes pour lesquelles le risque est dit élevé, mais dont la grande majorité en réalité porte un enfant dont le cariotype est normal. Compte tenu des délais lors du dépistage, puis évidemment lors du diagnostic, quand il y a suspicion, on peut parler d'une, c'est ce que nous remonte du terrain, un peu de grossesse en pointillé, de grossesse en stand-by, jusqu'à l'annonce vécue, soit comme un drame, soit au contraire comme une libération. Quatrième question, et je crois que c'est une question très importante, la question de la liberté du couple de choisir le test et de choisir ensuite la suite de la grossesse. Le test est vécu comme une routine, un examen normal de la grossesse, au même titre que les autres. Il y a une espèce de banalisation du dépistage, d'autant plus qu'il est remboursé par la Sécurité sociale, et peu de femmes ont conscience qu'elles risquent ensuite d'avoir des décisions graves à prendre, comme par exemple une interruption médicale de grossesse, on vient de le voir. Quelle est la place, quel est le rôle du médecin? Tous les termes de l'information sont-ils bien compris? Le réseau Ombrelle, dont je parlais tout à l'heure, insiste beaucoup sur les termes utilisés. Par exemple, des malformations de sévérité variable. Quel est le sens du mot sévérité? En parlant des enfants trisomiques, la plupart d'entre eux ne seront pas autonomes à l'âge adulte. L'autonomie est un terme tout aussi vague. Les personnes trisomiques sont avant tout des personnes, donc elles sont singulières. Le médecin donne une information, entre guillemets, claire, loyale et appropriée. Le fait-il toujours? Je crois que les chiffres que l'on vient de voir montrent qu'effectivement ce n'est pas toujours le cas. Une fois le diagnostic posé, y a-t-il là encore un véritable choix? On peut se poser la question quand on voit que dans 95% des cas, la grossesse se terminera par une IMG. Donc, d'une certaine manière, la prévention se fait par la suppression des personnes handicapées. On peut se poser la question à ce moment-là sur ce qu'est le handicap, sinon un problème à résoudre. Mettons-nous suffisamment en évidence l'apport des personnes handicapées mentales à la vie de la cité, ses compétences, ses talents, la richesse de son temps vécu, comme celle de sa contribution à l'économie solidaire. Enfin, quel avenir, ça sera ma dernière question, Quel avenir pour la famille qui a choisi de garder l'enfant ? N'est-elle pas d'une certaine manière mise au ban de la société ? Vous avez choisi en toute connaissance de cause. Point de suspension, débrouillez-vous. Autant de questions, je pense, que nous retrouverons dans la deuxième partie. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant donner la parole à Patrick Gaudret, donc, qui est chercheur au CNRS et qui était membre, enfin, qui est ou était, je ne sais plus.
Qui est entre une deux. Fin de mandat et le début d'un autre, je l'espère.
Donc du Comité consultatif national d'éthique.
Voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Louis de m'avoir invité. En fait, j'ai accepté effectivement de participer à ce premier panel parce que nous avons le sentiment au Comité consultatif national d'éthique qu'un avis important que nous avons émis en 2009, qui porte le numéro 107, donc qui témoigne de l'activité du comité, donc sur les problèmes éthiques liés au diagnostic anténatal, avait été extrêmement débattu dans la presse, mais pour une phrase seulement sur 28 pages, ce qui nous paraissait un petit peu réducteur, et je crois qu'il est intéressant de présenter un peu cet avis. En effet, le CCNE, en 2008-2009, avait décidé de réinterroger un peu les progrès de la médecine prénatale en reconnaissant effectivement toutes les retombées positives qui concernent un certain nombre de maladies, ce qui n'est évidemment pas à négliger. Mais dans l'évolution des techniques liées au diagnostic, voire au dépistage anténatal, effectivement, la question est ouverte de savoir si on ne favorise pas, si la médecine ne favorise pas à son insu une forme de sélection des enfants à naître. Donc le CCNE rappelait que d'un côté, la dignité d'un être humain n'est pas tributaire de ses capacités intellectuelles ou de ses activités physiques, et de l'autre, que les souffrances attendues d'une vie humaine peuvent conduire à des décisions transgressives dans un esprit d'humanité. Un des éléments forts de la réflexion du CCNE était sa constatation que seul l'intérêt supposé des couples était pris en compte, au risque d'amener à ce que l'enfant soit traité comme un objet obéissant à la commande et à la programmation. Au risque de faire que les diagnostics prénatals et autres diagnostics préimplantatoires deviennent des formes de dévoiement de la médecine, la réduisant à une ingénierie biologique. En France, par exemple, le dépistage de la mucoviscidose, qui aboutit à l'augmentation de l'identification de couples à risque par des tests génétiques pratiqués après qu'un enfant atteint ait été identifié, avait amené le CCNE à s'interroger dès 2003 sur la généralisation d'un dépistage préconceptionnel. Ces réserves, dues en partie à l'incertitude quant à la gravité de l'expression de la maladie, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a entendu tout de suite, ont été renouvelées en 2007, dans son avis numéro 97. Le CCNE y mettait en garde sur le risque que les avancées scientifiques et technologiques nous amènent à fonder nos choix, le choix de nos conduites, pardon, non pas sur une réflexion éthique, mais sur l'obtention de données générées quasi automatiquement par la mise en place de nouvelles techniques. Ainsi, une réflexion prospective approfondie des professionnels et de l'ensemble de la société nous apparaissait comme souhaitable et même indispensable, tant sur les modalités appropriées d'accès aux tests génétiques que d'informations quant à leurs résultats, afin que ces mesures contribuent à la protection de la santé et de la dignité de la personne, et pour éviter que leur utilisation sans réflexion préalable n'entre en contradiction avec la dimension éthique de la médecine. La question, effectivement, qui se pose, c'est est-ce que l'identification à la population générale de couples à risque d'avoir un enfant atteint d'une maladie grave et possiblement incurable est-elle acceptable ? On arrive très vite, évidemment, et dans son avis 107, le CCNE est arrivé également très vite à une dimension qui paraissait à l'époque prospective, on a entendu ce matin qu'elle ne l'était plus, c'est de l'actualité aujourd'hui, qui concerne les possibilités d'un diagnostic anténatal ultra précoce. Et dès 2009, donc, le CCNE avait souligné l'avantage incontestable que ce type de diagnostic avait pour éviter des gestes invasifs dont il a déjà été question, tels que l'amniocentèse avec ses risques. La contrepartie de cet avantage est bien sûr la survenue d'un risque d'interruption de grossesse pratiqué en cas de moindre doute, lors même du délai légal de l'interruption volontaire de grossesse, et ce, par des couples qui seraient non accompagnés. Pour nous, c'est dans la rapidité des diagnostics que peut résider un danger. Celui, par exemple, de ne plus laisser au couple le temps de mûrir leur décision. En rendant le diagnostic contemporain du dépistage, le test ultra-précoce pourrait court-circuiter le temps de la décision. Le choix d'une poursuite ou non de la grossesse serait moins le fruit d'un cheminement que celui d'une initiative instantanée. Et dans ces conditions, on insistait sur le fait qu'il convient que l'accompagnement de la femme enceinte soit encore plus attentif. De plus, et c'est un réel problème que nous tenions à souligner et aussi dès 2009, c'est si l'accès à de tels tests était possible auprès d'officines privées commerciant leur technologie par voie électronique, hein, on sait que cela existe, il serait possible d'envisager qu'un choix des couples soit élaboré en absence d'une information médicalement appropriée et en absence de modérateurs extérieurs. On définissait ainsi la mise en place d'un véritable tourisme prédictif auquel nous assisterions alors que, avec une clientèle en fait composée de couples seuls, désemparés et face à des tests non validés. Et pour le CCNE, il n'existe pas d'autre moyen d'empêcher les dérives inhérentes à tout ça que la transmission des connaissances par voie institutionnelle et pédagogique. Au-delà d'une souhaitable harmonisation des législations à l'échelle internationale, puisqu'on veut éviter le tourisme réel, procréatif notamment, donc une harmonisation de la législation internationale européenne, d'ailleurs, en premier lieu, dans un premier temps, il faut miser sur l'appropriation par les couples du savoir génétique, sur la prise de conscience des limites d'un tel savoir, sur les risques de surdiagnostic, et pousser à l'absurde sur le risque de ne jamais concevoir d'enfant. Aucun être humain, en effet, ne peut naître génétiquement exempt de risque de développer une maladie grave au cours de son existence. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Et donc maintenant, nous allons donner la parole à Jean-Paul Godillière, qui est historien de la médecine à l'INSERM et qui a travaillé donc sur la question des tests génétiques.
Comme Catherine Bourguin vous le disait, moi je suis historien et historien de la médecine, et on peut se demander un peu quel apport pourrait avoir un historien à la discussion d'aujourd'hui qui porte en fait sur du très contemporain et des innovations qui sont en devenir et pas encore présentes au moins dans leur extension prévisible. Bon. La première réponse à laquelle on peut songer, c'est celle qu'évoquait Ségolène Aimé tout à l'heure, c'est sur la continuité. C'est sur la continuité de toute une partie des modes d'intervention et des procédures dont nous discutons ce matin. Et on aurait pu, avec en tête cette perspective, s'intéresser à la trajectoire de la trisomie 21. En fait, paradoxalement, je vais prendre un point de vue un petit peu différent pour insister en fait sur les discontinuités et sur le point de départ qui est celui de l'existant pour essayer de revenir sur des choses très récentes qui sont la manière dont dans les 20-25 dernières années, sous l'effet des changements de l'offre technique et médicale, sous l'effet de la diversification des tests, donc au niveau du DPN, mais plus généralement des tests génétiques, les enjeux économiques, sociaux et légaux ont été opposés et discutés. Et en fait, les deux points sur lesquels je voudrais insister, c'est d'un côté sur les questions de risque, c'est-à-dire ce que signifie aborder ces maladies ou ces possibilité de maladie au futur par le risque et par les dispositifs de réduction des risques, et d'autre part sur la question des régulations et des enjeux économiques. Alors d'abord, sur quelques remarques sur la question du risque. En fait, on a tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, un processus qui est un processus très général, qui va bien au-delà de ce qui s'est passé pour la génétique, de transformation d'un certain nombre de problèmes, de dangers, de prédispositions aux maladies en question de risque. Bon, l'exemple archétypique que les historiens ont énormément travaillé, c'est celui du tabac, mais il y en a toute une pléiade d'autres. Et dans l'interprétation de cette transformation en risque de toute une partie des objets de la médecine, bon, on a généralement renvoyé ça au développement de l'épidémiologie, au changement des savoirs eux-mêmes, c'est-à-dire l'extension de l'usage des statistiques, la diffusion de la notion des facteurs de risque, et ce qu'on évoquait tout à l'heure avec l'héritage d'André Boué, participait de cette évolution. Mais il s'agit aussi de quelque chose qui a de profondes résonances politiques et sociales, et qui a conduit, par exemple, un certain nombre de sociologues à parler d'une société du risque dans laquelle nous vivrions aujourd'hui, société du risque qui a pour caractéristique principale, quand on s'intéresse au risque de santé, d'être assez profondément différente de la manière dont les questions de santé publique et de gestion des populations se posaient dans la première moitié du XXe siècle. Et une des grandes différences est la place qui est accordée dans cette appréhension par le risque à l'individu et à la question des choix. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une perspective centrée sur la mise en balance des risques et bénéfices, sur l'autonomie des personnes, sur le choix qui sont les choix qui sont avant tout ceux des individus, et du coup sur des formes de responsabilité des personnes et des individus dans la réduction des risques. Et dans ce contexte général de mise en risque, le statut de la génétique et des tests génétiques est un peu particulier. Et dans les discussions sur cette spécificité, on a en général insisté sur plusieurs aspects. D'une part, le fait qu'il s'agit de risques incorporés, c'est-à-dire qui concernent la personne elle-même, bon, contrairement à des risques d'exposition ou des risques environnementaux. Deuxièmement, sur la complexité de l'information qui est en jeu, et on vient d'en avoir certains éléments aujourd'hui, que ce soit en termes de variabilité d'expression, de multiplicité des mutations qui peuvent intervenir. Ensuite, une spécificité qui tient au caractère partiellement collectif de l'information qui est ainsi proposée et qui en même temps est appréhendée à travers les choix des individus, et surtout, une spécificité en termes des échelles de temps qui interviennent, à savoir la possibilité de donner une information qui portera sur le développement de maladies qui interviendront soit plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années dans le futur, soit même sur une autre génération, dans le cas du DPN. Alors, comme les innovations ont toujours deux faces, cette mise en risque a posé toute une série de problèmes qui tournent principalement, à mon avis, autour de la difficulté à penser, dans ce paradigme-là, ce que sont les conditions collectives et sociales de gestion de la maladie et de prise en charge. Et je vais juste mentionner deux éléments dans le faisceau de discussions et d'enjeux qui ont été associés à ça. C'est ce qui porte autour des conditions du consentement. Et on vient d'évoquer la complexité de l'information, mais aussi la très grande hétérogénéité des personnes face à la divulgation de cette information. Et là, hétérogénéité qui peut tenir aux origines ethniques, qui peut tenir aux catégories socio-professionnelles, bon, ou aux trajectoires de famille. Mais aussi, deuxième élément, c'est la difficulté qui porte sur les relations entre les dispositifs de gestion du risque proprement dit, ceux du dépistage ou ceux du diagnostic, et la prise en charge collective des maladies. Françoise Cabaya évoquait cette perspective où, en conséquence de la généralisation des dispositifs de test, au final, ce sont les familles qui deviennent responsables, qui ont à se débrouiller avec la maladie si elles ont fait le choix de garder l'enfant. Plus généralement, on a une interrogation sur ce que peuvent être les relations en fait, négatives entre la prise en charge et le développement des tests. C'est quelque chose qui est très souvent évoqué, qui est très mal connu dans ses conséquences concrètes, mais qui est un véritable enjeu. Alors je vais en venir maintenant aux questions de régulation, brièvement, en partant en fait d'un travail qui a été fait dans mon unité de recherche et qui a été ensuite très largement intégré dans une expertise collective de l'INSERM sur la question des tests génétiques qui a été publiée donc il y a quelques années et qui porte sur la question des rôles du marché et des évolutions que les transformations des relations entre la recherche biomédicale et l'économie ont eu au cours des 20 dernières années. Première chose, on a effectivement, du fait de la mise en place d'une nouvelle économie, d'une économie de la connaissance, d'une économie centrée sur les start-up très particulièrement, mais plus généralement, toute une série de formes de valorisation directe des connaissances, dont le changement des droits des brevets est l'indice plus général, un problème qui est d'une certaine manière beaucoup plus aigu qu'il n'a été dans les dernières années, et qui a du coup posé une série de débats, parfois de controverses très vives, sur le statut des tests génétiques. Un très bon exemple est ce qui s'est passé autour des tests de prédisposition au cancer du sein. Ça n'est pas le DPN, et en même temps, les enjeux sont du même type. Sont du même type parce que ce qui était au cœur de ces discussions était la question de l'utilité et la question de la propriété. De ma façon très, très intéressante, dans les différents pays, ces deux questions ont été abordées de manière très contrastée. Je vous donne juste une petite indication. Dans le cas des tests de prédisposition au cancer du sein, aux États-Unis, la discussion a porté principalement sur l'utilité des tests, alors qu'en France, ce sont les questions de propriété, les questions de brevets qui ont été au cœur des débats. Et cette discussion sur l'utilité aux États-Unis, offre un cadre ou des éléments de réflexion intéressants dans la mesure où elle a débouché sur la mise en place d'un débat public associant à la fois les professionnels, les usagers et les entrepreneurs ou entreprises impliquées dans le développement de ces tests, et qui a débouché sur des propositions de régulation tout à fait originales par rapport aux configurations de débat qu'on connaît en France ou plus généralement en Europe. En l'occurrence, et sans rentrer dans les détails, il s'agissait d'une proposition de régulation portant sur un alignement en fait, de la situation des tests génétiques et de celle du médicament. Alignement qui passerait par l'introduction d'une autorisation de mise sur le marché. Le type de problèmes qui étaient ciblés concernaient les questions d'accès, l'intégration de la prise en charge, les risques de discrimination et bien sûr le surdiagnostic ou le surtest. Dans les recommandations qui avaient été faites dans ce cadre-là, il s'agissait d'un comité mis en place par le département de la santé en 2000 aux États-Unis, il y avait en fait une hiérarchisation de l'ensemble des tests à partir des critères que vous voyez ici portant sur l'existence ou la non-existence d'un traitement, sur la pénétrance plus ou moins forte des gènes, et du coup une distinction entre des tests pour lesquels il faudrait envisager une régulation forte parce qu'il s'agit de tests à haut risque, et à l'inverse, des tests pour lesquels la régulation pourrait être beaucoup plus souple parce qu'ils posaient beaucoup moins de problèmes. Et il s'agit d'une idée intéressante en termes de diversification si on pense en particulier à toute la palette de diagnostics qui aujourd'hui sont envisageables ou possibles. Alors deux mots pour terminer sur la façon dont on peut, à partir de ces quelques éléments, essayer de réfléchir les enjeux spécifiques du diagnostic prénatal non invasif. Il me semble que là aussi, les éléments principaux tournent autour de ces deux questions, d'une part de l'utilité et d'autre part du rapport au marché et de la propriété. Alors sur l'utilité, ça a été dit et cela reviendra, je pense, dans la deuxième partie de la discussion. Un des éléments majeurs du déplacement est le changement de chronologie et la simplicité des tests, avec deux types de conséquences. Les premières tournent autour du moment où le diagnostic sera possible dans la trajectoire de grossesse et en particulier du rapport à l'avortement par le biais du médicament en particulier, puisque dans les perspectives, là, la question d'un diagnostic possible autour de la septième semaine joue un rôle central. Et deuxième conséquence, c'est la possible extension de la palette d'indications des tests, avec du coup une double hétérogénéité, une hétérogénéité portant sur les risques qui sont en cause et d'autre part sur la gravité des maladies, d'où le lien à la question de la classification ou de la liste des maladies. Sur le plan de la propriété et des rapports à l'économie et des régulations, les deux éléments forts que nous avons, à mon avis, à prendre en compte portent d'un côté sur le fait qu'il y a aujourd'hui d'ores et déjà une vraie bataille de propriété intellectuelle autour de ces tests. Il y a deux procès qui sont déjà en cours entre deux des compagnies qui sont impliquées dans le développement des tests, et que ces enjeux de propriété intellectuelle ne risquent de devenir encore plus visibles, ne serait-ce que par le fait que la plupart des séquences de gènes qui seront utilisées pour conduire ces tests font l'objet de brevets et sont appropriées. Et deuxième élément surtout, c'est ce qui a été évoqué autour de l'autonomisation du marché des tests. Non seulement l'accès direct aux consommateurs, mais le fait que le modèle que j'évoquais précédemment autour des start-up et de leur capacité à construire, mettre en place et proposer des dispositifs de test qui sont dissociés de la clinique se posera de manière encore plus aiguë dans le cadre du diagnostic prénatal non invasif. Je vous remercie de votre attention.